Bien, si vous voulez bien, nous allons reprendre la séance en commençant par un exposé de Jean-Christophe Marcel, qui est maître de conférence en sociologie à Paris 4 et qui va nous exposer le cas de la bibliothèque du Centre de documentation sociale.
Merci. Oui, alors je vous dois déjà des excuses, puisque contrairement à ce qui est écrit sur le programme, il ne s'agit pas de la bibliothèque de l'IRESCO, mais du Centre de documentation sociale. Il s'agit d'un quiproquo entre Jean-François et moi, je n'ai sans doute pas été assez clair. Ceci étant dit, j'espère vous montrer qu'il y aura un certain nombre de ramifications dans la mesure où le centre en question préfigure, dans une certaine mesure, ce qui va se passer ensuite au centre d'études sociologiques, où a été constitué ce qui est devenu plus tard la bibliothèque de l'IRESCO. Si vous voulez, le Centre de documentation sociale, c'est une bibliothèque sociologique qui est créée en 1920 sous la tutelle du Durkheimien Bouglet, qui ne survivra pas à sa mort d'ailleurs. Donc en gros, si vous voulez, sa durée de vie, c'est 1920-1940. Et qui, si vous voulez, est intéressant pour moi dans la mesure où il est à la fois un centre de documentation. Je vais vous montrer sur quoi exactement. Donc on recueille des documents, on fait des bibliographies, etc. etc. Et alors ce qui est intéressant, c'est le lieu en tant que tel. Et alors effectivement, on me posait la question, c'était deux salles de l'École normale supérieure. Je n'ai pas réussi d'ailleurs à voir où c'était dans les archives, topographiquement parlant. Et si vous voulez, ce lieu, cette bibliothèque en tant que lieu et en tant qu'institution, va s'avérer en quelque sorte être, si vous voulez, en même temps, le premier laboratoire de recherche sociologique dans l'université française au sens où on l'entend aujourd'hui. Autrement dit, si vous voulez, je me rappelle avoir discuté de ça il y a très longtemps avec Pierre Tripier, et je lui disais, mais c'est bizarre, c'est pas une bibliothèque, on dirait un centre de recherche. Il m'avait dit, mais oui, c'est un centre de recherche qui produit du savoir, en quelque sorte. Et alors, si vous voulez, en essayant de me coller, si j'ose dire, à la problématique du colloque, on peut dire que, enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse que je voudrais défendre, on peut dire que dans une certaine mesure, en croisant les archives du centre en question, les témoignages de certains des acteurs, je vous en mettrai en scène quelques-uns, plus la littérature secondaire, par exemple le travail de Brigitte Mazon sur la Fondation Rockefeller, on peut dire, si vous voulez, que dans une certaine mesure, autour de cette activité de bibliothèque, vont être inaugurés un certain type nouveau de pratiques savantes et de production savante. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, la manière de faire la sociologie et la manière de concevoir le métier de sociologue va se modifier, pour dire vite, hein, en quelque sorte, c'est comme ça, si vous voulez, me semble-t-il, à cette époque-là, que va être importée, dans une certaine mesure, la méthode de recherche à l'américaine, d'autant plus qu'effectivement, la Fondation Rockefeller va devenir un des financiers du centre de documentation sociale. Et alors, si vous voulez, c'est pas le lieu que je développe ça ici, peut-être dans la discussion après, mais pour l'histoire de la sociologie française, c'est assez important. C'est assez important parce que ça remet en cause un certain nombre de périodisations, comme en particulier cette idée couramment défendue et développée, selon laquelle c'est dans les années 50 que la sociologie française aurait changé, qu'on serait passé du modèle de la sociologie universitaire d'inspiration philosophique durkheimienne à une sociologie plus empirique, tournée vers le terrain, etc. etc. Et donc, si vous voulez, dans une certaine mesure, cette conversion se fait au centre de documentation sociale, du coup. Et paradoxe, elle se fait en plus avec la bienveillance, je vous en dirai deux mots, d'un durkheimien et qui plus est d'un des durkheimiens considéré la plupart du temps comme le plus dogmatique et le moins ouvert à tout changement dans la doctrine sociologique. Bon, ça, si vous voulez, c'est l'arrière-fond d'interrogation qui est le mien au départ. Alors, pour ce qui nous intéresse, ou ce qui vous intéresse du moins, j'espère ici, l'idée, si vous voulez, c'est que tout simplement, les jeunes chercheurs sociologues de la génération des années 30, qui deviendront les maîtres ensuite, en l'occurrence Raymond Aron, Jean Stutzel, Georges Friedman, Marcel Déa, qui a eu après le destin qu'on sait, mais qui faisait partie de cette équipe. Déa était quand même considéré par Bouglet comme le successeur attitré et le futur maître de la sociologie française. Et c'est d'ailleurs le premier secrétaire archiviste, c'est celui qui fait toutes les bibliographies, qui recueille tous les documents avec la bienveillance de Lucien R. qui plus est. Enfin bref, ça c'est autre chose. Donc si vous voulez, l'idée c'est que dans ce lieu vont finalement, alors par, par un mécanisme. Là, j'imagine qu'il me faudrait des outils comme les vôtres, hein, un espèce de bouillonnement intellectuel comme ça, si vous voulez. Et autour de cette activité de bibliographie, finalement, ben, vous avez des gens qui vont se tourner vers l'enquête de terrain, vous avez des gens qui vont expérimenter, on pourrait dire, avant la lettre, comment dirais-je, le séminaire de recherche tel qu'on le connaît aujourd'hui. Hein, il y a quelqu'un qui va faire un exposé, on discute de ses recherches collectivement, voire même ça préfigure, si vous voulez, ces séances qu'on connaît parfois dans les laboratoires de recherche où quelqu'un vient présenter à travers une recherche des éléments méthodologiques autour desquels on discute. Bref, si vous voulez, il me semble qu'à travers le centre de documentation sociale, en tout cas c'est ce que je voudrais vous montrer, on a en quelque sorte un cas d'école pour montrer comment une demande de fonds privés, une demande sociale financée par des fonds privés, va aboutir finalement à un infléchissement dans la façon de faire les sciences sociales, enfin, ou de, si vous voulez, de considérer le métier de sociologue, de pratiquer le métier de sociologue, pour employer un autre vocabulaire plus contemporain, et ça va aboutir effectivement à un autre type de production sociologique, du coup. Donc je vais essayer, voilà, c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer. Alors, si vous permettez, je plante le décor d'abord dans un premier temps. Donc, un peu plus précisément, ce qu'est, j'essaie de vous décrire rapidement ce qu'est le centre de documentation sociale. Donc, il est créé en novembre 1920, plus exactement, et si vous voulez, au départ, c'est un accord qui est passé entre le banquier Albert Kahn, l'Université de Paris, l'École normale supérieure. Ouais, donc, c'est Kahn qui finance ça jusqu'en 1932, quand, ruiné par la crise de 1929, c'est la fondation Rockefeller qui va prendre le relais. Alors, il se trouve que Bouglé, depuis un bon moment, avait, avec Mauss d'ailleurs, hein, il y a un document dans la Revue française de sociologie où Mauss donne un projet de fondation d'un institut de sciences sociales, etc., lequel Mauss, alors ça, je crois que Brigitte Mazon l'explique très bien, avait été écarté par les Américains. Donc, c'est Bouglé, si vous voulez, qui avait repris en quelque sorte ce projet. Et c'est Bouglé, finalement, qui, grâce à ses contacts, notamment avec le recteur Charletti, lequel était en lien assez étroit avec la fondation Rockefeller, c'est Bouglé qui prend le relais, si vous voulez, et qui obtient finalement la fondation du centre de documentation sociale, lequel était d'ailleurs lié, si vous voulez, à un certain nombre d'autres organismes, comme l'Institut de droit comparé, l'Institut d'ethnologie, l'Institut scientifique de recherche économique et sociale. Donc tout cela formait, si vous voulez, une myriade avec les mêmes financiers, hein, et était supervisé d'ailleurs par une institution qui s'appelait le Conseil universitaire de la recherche sociale, qui avait été créé en 1935. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est face aux grands problèmes que connaît le monde, l'Europe, montée du fascisme, crise de 1929, etc., etc., essayer de comprendre l'actualité, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe dans le monde contemporain et dans cette période troublée, il faut absolument qu'on sache ce qui se passe. J'ajoute que le centre de documentation sociale était lié à ce titre à la SDN. Et donc, si vous voulez, toute une partie du fonds documentaire sur l'actualité mondiale, hein, l'actualité économique, sociale, politique, mondiale, européenne, transitait par une antenne, si je ne dis pas de bêtises, du Bureau international du travail. Donc, dans un deuxième temps, si vous voulez, je voudrais essayer de vous montrer donc comment ça a fonctionné, si, hein, et comment, autour de la création de ce fonds documentaire, un certain nombre de pratiques intellectuelles ou pratiques savantes ont changé. Alors, donc, l'idée, si vous voulez, c'est de créer la première grande bibliothèque sociologique qui permettrait de comprendre l'actualité. Donc, le but officiel de départ, c'est réunir, si vous voulez, dans un même lieu, tout un tas de documents qui permettent de comprendre l'actualité mondiale. Alors, donc, si vous voulez, tous ces jeunes gens, alors, je peux vous donner des noms. Donc, il y a Déa, par exemple, qui est le secrétaire archiviste, mais vous avez Jean Cavaillès qui passe par là, Raymond Aron, Friedman, Raymond Paulin, le philosophe. Et puis après, ouais, ça laisse rêveur. qui va faire des enquêtes en Tchécoslovaquie. Voilà. Et après, s'adjoignent un ou deux assistants. Pareil, on retrouve des noms qu'on retrouvera plus tard dans l'université française. Et donc, si vous voulez, leur première tâche, la tâche de départ, c'est de constituer des bibliographies, c'est-à-dire hein, de recenser les documents qui sont acquis par le centre et de faire des bibliographies. pour, si vous voulez, penser de plus en plus les problèmes d'actualité à mesure que le monde, en quelque sorte, s'achemine vers la guerre. Bon, par exemple, dans les archives, hein, vous avez vous avez sans arrêt des billets que Bouglet envoie au recteur Charletti. Il y a urgence, donc il faudrait tant d'argent pour acheter tel type de document, pour comprendre ce qui se passe en Italie, etc. etc. Je peux vous citer, par exemple, j'ai trouvé une lettre anonyme qui date de 1932, qui est probablement, qui est adressée au président du Conseil, qui est probablement écrite par Bouglet ou Charletti, je ne sais pas, et qui dit la chose suivante, dans un état de crise où le monde entier, tant au point de vue économique et politique, intellectuel et moral, est désorienté et déséquilibré, l'idée maîtresse et le bienfait capital de cette fondation est de présenter sur toutes les questions une vaste documentation d'ensemble et d'éviter les vues fragmentaires et incomplètes qui entraînent le plus souvent des actions arbitraires, etc. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est d'aider, en quelque sorte, à la décision politique, si j'ose dire. Et ça revient, si vous voulez, en permanence, c'est-à-dire, d'où une première rupture, en quelque sorte, hein, avec la sociologie, si vous voulez, traditionnelle, philosophique, universitaire, de cabinet, que sais-je, c'est de produire une réflexion à chaud, immédiate, sur l'actualité. Déa, par exemple, dans ses mémoires, évoque ce que les jeunes de l'époque appelaient la docu, et dit la chose suivante, nous formions en annexe à la bibliothèque déjà très riche en ouvrages de sociologie et d'économie politique, un fonds documentaire bientôt abondant, nous connaissions dans le détail les lois sociales en gestation dans les pays les plus avancés de la planète, nous étions en liaison avec toutes les officines documentaires. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, donc, ça, je voudrais vous montrer ça dans un troisième temps, c'est que finalement, cette façon orientée, en quelque sorte, de mobiliser la science sociale va déboucher sur une nouvelle façon de la faire et de la concevoir. Autrement dit, si vous voulez, à ce travail de bibliographie, à ce travail de collecte de la documentation, vont s'adjoindre, par exemple, des cycles de conférences qui vont aussi devenir, en quelque sorte, des séminaires de formation. Alors, le principe, si vous voulez, c'est, par exemple, dès l'année scolaire 1931-1932, on trouve dans les archives des traces qui montrent très clairement que vous avez des cycles de conférences qui vont donner lieu à des discussions qui portent sur des problèmes d'actualité, par exemple, la crise économique en Europe et aux États-Unis, le problème des régimes autoritaires, et vous avez aussi une nouveauté, à ma connaissance, c'est qu'on fait venir des gens extérieurs, si vous voulez, qui ne sont pas considérés comme des spécialistes de la sociologie, des experts ou des universitaires. Bon, par exemple, vous avez Benesch, le président tchécoslovaque, si je ne dis pas de bêtises, qui vient faire une conférence sur le problème de l'Europe centrale, Marc Sangnier, les papes et la paix, Jacques Rueff, l'extension du chômage et ses causes, Paul Rive, sur le Bureau international du travail. Et donc, si vous voulez, autour de ces conférences où des intervenants extérieurs viennent, il y a aussi, en quelque sorte, me semble-t-il, qui tranche avec le ton des productions précédentes, hein, une espèce de volonté, si vous voulez, de mélanger les différentes disciplines. Autrement dit, vous avez une approche pluridisciplinaire, en quelque sorte, où on mélange, entre guillemets, des considérations sociologiques, l'histoire, la science politique, etc., etc. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est qu'à ce moment-là, les discussions et ce qui va en sortir tranchent en quelque sorte, ça c'est Brigitte Mazon qui le souligne, mais je pense qu'elle a raison, tranchent finalement avec le ton habituel, n'est-ce pas, des cours de faculté, où on présente le cours magistral, où le maître dispense sa parole, j'imagine, on peut dire que c'est quelque chose comme la libre discussion, ou la discussion plus ou moins libre entre des personnes de statuts différents qui s'instaure, hein, qui s'institutionnalise, on pourrait dire, au sein des murs du centre de documentation sociale. Alors, donc j'imagine aussi, hein, surtout à partir de 1932, c'est en quelque sorte le modèle du séminaire américain ou à l'américaine qui s'importe, on pourrait dire. Mais me semble-t-il, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir, alors c'est pareil, là encore les outils me manquent, mais c'est d'essayer de voir dans quelle mesure ces activités intellectuelles qui vont se greffer autour de la collecte de la documentation sont en quelque sorte la réponse ou l'interprétation ou la réception, je ne sais pas comment dire, que les Français vont faire ou que certains Français vont faire de cette injonction qui venait de la Fondation Rockefeller, promouvoir, selon les termes américains, la méthode inductive, l'enquête sur le terrain, etc. etc. Alors justement, je voudrais arriver dans un quatrième point à cette idée que le centre de documentation sociale, c'est un centre de formation, enfin va s'avérer en quelque sorte être un centre de formation où ces sociologues de la génération des années 30 vont apprendre en quelque sorte leur métier, mais d'une nouvelle façon.